Léa Muraviec, bonjour.
Bonjour.
Comment est née cette histoire du grand vide que je viens de très rapidement résumer? Vous avez commencé à en avoir l'idée, l'envie quand vous étiez étudiante, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et comme beaucoup d'étudiantes et étudiants, quand on a une idée d'histoire, qu'on sent qu'on a envie de la développer sur un format plus long que des fanzines ou des histoires courtes, ça prend du temps, ça prend des années, souvent, parce qu'on n'a pas forcément le temps, ni l'opportunité dans des ateliers d'écriture de pouvoir approfondir l'histoire. Donc moi, j'ai attendu en fait d'avoir vraiment l'occasion de développer l'histoire avec une résidence en fait quand je suis sortie de l'école.
Et comment est-ce qu'on sait, vous le disiez, c'est votre premier récit long, vous avez publié beaucoup d'histoires courtes dans des fanzines, des histoires d'une vingtaine de pages. Comment est-ce qu'on sait que cette histoire-là, il faut qu'elle fasse plus de 20 pages? On le sait immédiatement?
En fait, ce dont je me suis rendu compte, enfin, en fait, je note plein d'idées d'histoire un peu tout le temps dans des cahiers ou des mémos. Et en fait, simplement, quand on reprend ce mémo et que on voit que la moitié des idées étaient toutes pourries, mais il y en a une ou deux qui restent et qui nous donnent toujours envie de les développer. Et souvent, une idée d'histoire, enfin, moi, c'est venu d'abord à propos du grand vide. J'avais eu l'idée que j'avais envie de faire une histoire dans un monde où les gens meurent s'ils sont oubliés. Et c'était vraiment juste, je partais de ça en fait à la base. Et avec avec ce système, ça me donnait énormément d'idées. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça va dépasser l'histoire courte et peut-être que j'arriverai à en faire une histoire longue.
Et comment est-ce que ce motif de la mort est revenu dans vos carnets, puisque vous dites qu'est-ce qui se passerait si les gens mouraient, s'ils étaient oubliés? C'est aussi ben, forcément la question de la trace qu'on laisse, qui est voilà, comment est-ce que en tant qu'artiste, mais on peut aussi le faire quand on n'est pas artiste, mais notamment quand on est artiste, comment est-ce que on a envie de créer pour que justement notre nom, notre art soit toujours présent même quand on sera plus là? Comment est-ce que vous avez vu ce motif se développer dans vos carnets jusqu'à vous dire, ben voilà, maintenant que je suis en résidence, je vais pouvoir développer cette histoire?
Ah, il s'est passé quand même beaucoup de temps. En plus, je pense que j'ai eu cette idée parce que c'était un moment où je lisais beaucoup de choses à ce sujet, des récits d'artistes. On avait des cours sur l'image, par exemple, aux Beaux-Arts d'Angoulême. Et autour de tout ça, en fait, ça a énormément nourri ma réflexion. Je pense que l'école, c'est assez chouette pour ça, par tout ce que ça ouvre comme perspective de thématique, de réflexion pour des histoires. Et du coup, en fait, moi, je me suis servi vraiment comme, en fait, à l'école d'image, aux Beaux-Arts, par exemple, on n'a pas de cours d'écriture ou très peu. Et du coup, on doit un peu se débrouiller comme on peut pour trouver du temps et l'opportunité de pouvoir développer ces histoires. Donc moi, je me suis un peu servie de tout ce que je trouvais, comme des concours, par exemple. J'avais envoyé ma toute première version d'histoire, c'était pour le concours Leblanc, je crois.
Raymond Leblanc.
Voilà. Et je savais que ça aboutirait à rien, mais par contre, j'étais contente qu'à la fin, j'avais une toute première version de mon histoire qui ressemble pas trop à celle qui est là maintenant, mais qui m'a aidée à pouvoir rebondir après pour la suite. Et donc à partir de ce premier jet, j'ai pu candidater du coup pour la résidence de la Maison des auteurs que j'ai faite après l'école. Et
À
donc là,
Angoulême.
à Angoulême, voilà. Et ça, c'était un deuxième dossier que j'ai fait. Et là, j'ai commencé à comprendre que l'écriture, ça allait être très long et beaucoup d'étapes qui sont pas du tout définitives en fait.
Et on va bien évidemment revenir sur ces différentes étapes, mais peut-être un mot justement je parlais tout à l'heure du moment où on se dit, ben tiens, ça peut faire un récit plus long. À partir de quel moment est-ce que vous vous êtes dit, bon, ça y est, je peux le présenter à des éditeurs, ou en tout cas, ça y est, je suis sûre de moi et je sais que je vais aller jusqu'au bout et que ça tient la route et que j'ai envie que ce soit ça mon premier album?
Alors moi, ça m'a pris beaucoup de temps. En plus, moi, je viens du fanzina, donc je suis aussi éditrice dans une maison de micro-édition qui s'appelle Flûtiste, dans laquelle je publie depuis que j'ai commencé mes études vers mes 19 ans. Et après, je suis devenue aussi éditrice. Donc en fait, j'avais déjà ce rapport aux éditeurs. Par contre, j'avais pas trop confiance en moi. Je me sentais, même une fois en résidence, en fait, entourée d'autres autrices et auteurs beaucoup plus expérimentés, j'avais du mal à me sentir être autrice, en fait. Et il a fallu que je m'entoure de ces personnes-là qui étaient plus expérimentées et crédibles, entre guillemets, qui me donne confiance en moi. Et à partir de là, au début de ma résidence, j'ai eu beaucoup de mal à croire dans mon projet, même si on m'a donné une résidence pour ça. Et petit à petit, j'ai fini par me convaincre et à me lancer dans l'écriture. Et là, au moment où je me sentais prête à montrer mon travail, je me sentais aussi du coup prête à avoir une intervention extérieure qui était celle d'un éditeur. Et c'est aussi quelque chose que j'aime bien, avoir des retours sur mon travail. Mais par contre, le moins possible, parce que c'est assez intimidant aussi de montrer son travail.
Et à quel moment est-ce que ça s'est fait? Puisque vous avez mis environ 2 ans, je crois, à réaliser cet album. À quel moment est-ce que vous avez rencontré les équipes des éditions 2024? À partir de quel moment est-ce qu'ils ont commencé justement à intervenir, ou en tout cas à avoir des échanges avec vous?
Alors, c'était à peu près à 4 mois de résidence, je crois. Ouais, 4 mois. Et là, j'avais constitué un dossier en fait, j'avais déjà pas mal réécrit mon histoire, mais j'avais encore rien découpé, rien dessiné, parce que je me doutais, pour avoir fait aussi un stage dans une maison d'édition qui sont les éditions 2024, je savais en voyant passer des dossiers qu'on est souvent amené à retravailler beaucoup son scénario ou son découpage. Je voulais pas perdre trop de temps non plus. Et du coup, à partir de ces 3-4 mois d'écriture intensive, là je me sentais prête à montrer un dossier bien découpé avec des planches finies, et là j'étais prête à essuyer des refus, mais au final ça s'est très bien passé. Donc
vous
voilà,
l'avez présenté que à 2024
non, à beaucoup d'autres éditeurs, et j'ai eu beaucoup de propositions de publication. Donc là aussi c'était assez intimidant pour moi, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, forcément, ça donne confiance en soi. Mais à partir de là, une fois que j'ai pu signer mon premier contrat, là, on a commencé à avoir des échanges et des retours qui étaient super. En fait, moi, j'étais très contente d'avoir ces retours sur l'écriture, ce qui est pas toujours évident dans la bande dessinée indépendante, où on a aussi la chance de pouvoir être assez libre de ce qu'on fait. Moi, j'avais quand même besoin d'avoir un peu ce retour d'éditeur, parce que je sentais que ça me ferait avancer.
Et c'est sur quoi, sans rentrer bien évidemment dans le détail, mais c'était des questions de rythme, des questions de, quand vous disiez, sur les interventions par rapport au scénario, c'était à quel niveau qu'il y a eu besoin de remuscler?
Alors déjà, avant toute chose, comme moi j'ai pu avoir plusieurs contacts avec des éditeurs au moment de signer un contrat, je me suis bien rendu compte que c'était important que l'éditeur comprenne bien notre histoire, en fait. Parce qu'à partir de là, on gagne beaucoup de temps dans l'écriture, on avance plus facilement, on a besoin de moins se justifier. Et quand on fait une première histoire, c'est souvent difficile de s'affirmer face à quelqu'un de professionnel. Donc moi, j'ai vraiment fait attention à choisir un éditeur qui avait compris l'histoire. Et à partir de là, j'ai avancé toute seule. Et puis assez vite, je me suis retrouvée bloquée, mais plus pour des questions de rythme. Et en fait, assez basiquement, quand on fait que de l'histoire courte et humoristique, on est habitué à un rythme précis qui peut tenir sur 4-5 pages. On peut faire vachement d'expérimentation, en fait, sur peu de pages. Et sans avoir peur que ça se casse la gueule, en fait, en cours de route, sur la longueur. Donc là, j'ai rencontré des problèmes de rythme parce que tout était... c'était une succession de sketchs, en fait. C'est comme si j'avais écrit une succession d'histoires courtes, alors qu'au final, il fallait être plus subtil pour mettre en place un univers, pour faire rentrer dans l'histoire des personnages... Enfin, faire rentrer le lectorat dans l'histoire. Et donc, j'ai eu besoin qu'on m'aide à comprendre où mettre l'intensité du récit, où mettre les scènes qui étaient plus là pour faire tampon entre deux scènes importante, et j'ai compris énormément de choses. Mes éditeurs m'ont donné quelques trucs assez classiques, en fait, d'écriture de scénario, mais que je connaissais pas, et donc ça c'était super pour me débloquer.
Et vous allez sans doute nous expliquer aussi dans quelques instants comment est-ce que la musique notamment et les jeux de rôle ont pu vous aider aussi dans la construction de ce récit, ou en tout cas vous accompagner pour trouver le bon rythme. Mais j'aimerais qu'on revienne un instant, vous évoquiez les études que vous aviez faites à Angoulême, donc à l'ESI, l'école supérieure
École européenne supérieure de l'image.
Voilà, exactement. Juste avant l'ESI, vous avez fait des études de graphisme. J'aimerais qu'on monte encore un tout petit peu plus loin. Vous faites partie de ces autrices, de ces auteurs qui ont toujours su qu'ils voulaient faire de la bande dessinée, ou en tout cas dessiner. C'est vrai que c'est plus rare, mais il y a des autrices et des auteurs qui découvrent ça plus tard. Vous, c'est vraiment quelque chose qui était présent dès l'enfance ?
Oui, c'est ça. En fait, bizarrement, j'ai toujours dessiné avec du texte. Enfin, le texte et l'image étaient toujours mêlés et j'ai fait très très tôt de la bande dessinée. Et donc, j'ai toujours écrit et dessiné mes propres histoires, que ce soit des copies d'albums que Lucky j'adorais, Luke. Voilà, Lucky Luke, les Witch, les Total Space, enfin un peu tout. J'aimais bien me réapproprier les univers dont j'étais complètement fan. Et après, c'est resté. Quand j'étais au collège, je lisais beaucoup plus de mangas. Et là, c'était soit des fanfictions de Naruto. Enfin, en fait, je continuais là-dedans. Après, je me suis plus tournée vers le journalisme pour continuer de la bande dessinée, mais de façon peut-être plus sérieuse. Je pense qu'à l'adolescence, on développe beaucoup de complexes. Et que tout d'un coup, on se dit que la bande dessinée, c'est... ou les passions qu'on a, elles sont moins sérieuses et qu'il faut un peu trouver un angle d'attaque pour pouvoir... rester crédible en les faisant. Et en fait, je sais pas pourquoi, au moment de devoir m'orienter, j'ai pas forcément choisi la bande dessinée, peut-être parce que on a un peu cet imaginaire que c'est pas forcément un métier ou qu'on n'en vit pas forcément. Et assez vite, en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire et aussi étudier après, plus tard dans mes études. Et donc, voilà, c'était une évidence et en même temps pas forcément. Donc, je pense que chacun chemine un peu comme il ou elle peut.
Et vous le disiez, vous n'avez pas été tout de suite vers la bande dessinée professionnellement. Mmh. Vous avez été à Estienne pour faire des études de graphisme. Malgré tout, je veux dire, c'est pas du temps perdu, puisque j'imagine que vous avez pris plein de choses dans cette école. Et d'ailleurs, on le voit dans le grand vide, le graphisme est très très présent. Mmh. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette école qui vous fait vous dire qu'effectivement, voilà, c'était un petit pas de côté peut-être au niveau de cette orientation vers la bande dessinée, mais finalement un pas de côté qui était riche.
Alors au moment de faire des études de graphisme, en fait, je savais déjà que je ferais de la bande dessinée plus tard, mais je me disais que j'avais envie de m'amuser, entre guillemets, dans mes études et faire quelque chose qui m'apprendrait peut-être à me diversifier ou qui compléterait un peu ce que je pourrais faire en bande dessinée. En fait, je me suis assez ennuyée en graphisme. J'ai appris surtout à me servir des logiciels, le dessin de la lettre et tout ce qui est autour du vocabulaire du graphisme de la lettre. Et je pense qu'en fait, j'ai aussi appris à avoir un œil et un regard graphique sur les choses, sur la composition, la mise en page. Et ça, je pense que c'est resté. Et c'est une sorte d'approche plus abstraite de l'image qui me sert toujours en bande dessinée. Et oui, le dessin de la lettre, mais ça, c'est quelque chose que je faisais aussi quand j'étais enfant. Je copiais des lignes de calligraphie gothique. J'étais une enfant un peu bizarre, je pense, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimais aussi, au même titre que le dessin, en fait. Voilà.
Et vous parliez du manga que vous lisiez beaucoup au collège et au lycée. Finalement, c'est pendant vos études supérieures que vous avez découvert la bande dessinée plus indépendante. Qu'est-ce qui vous a marqué à ce moment-là ? Quels univers est-ce que vous avez découvert à ce moment-là pendant vos études ? Allez-y.
J'ai découvert une bande dessinée plus conceptuelle, on va dire, qui se soucie peut-être pas forcément de raconter quelque chose, ou en tout cas juste par l'image. Donc c'était intéressant. J'ai découvert le travail de Jochen Gerner, Yuichi Yokoyama. Et alors qu'en BTS, j'étais dans un cercle d'amis qui découvraient la BD aussi, mais du coup c'était peut-être plus Brecht Evans ou Pénélope Bagieu. Et du coup, je me dirigeais vers quelque chose de peut-être plus pointu, voire parfois peut-être un peu trop pointu pour moi, mais c'est quelque chose qui est resté aussi dans mon imaginaire et que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai aussi beaucoup aimé, allez-y. De pouvoir rester dans une classe mixte et ouverte à d'autres pratiques de l'art. Et c'est peut-être pour ça que ça m'intéresse, moi, dans mon écriture de bande dessinée, d'aller chercher dans d'autres domaines, en fait, d'autres façons de raconter des histoires, que ce soit par le concept en art contemporain ou par le théâtre ou la musique ou le jeu de rôle. C'est que je trouve ça intéressant de voir comment chaque média fait pour à travers son langage à soi qui lui est propre, se débrouille pour raconter quelque chose, en fait. Ça, je trouve ça intéressant.
On parlait du fanzina, c'est aussi quelque chose, le fait de pouvoir expérimenter, ce que permet aussi l'école, que ce soit à travers le fanzina ou à travers l'école. Cette expérimentation, on sent que c'est au cœur de votre pratique, vraiment, et c'est ça aussi qui vous a permis de déboucher finalement sur un album aussi maîtrisé, alors que c'est un tout premier album de bande dessinée. Cette expérimentation, elle est hyper importante pour vous, et est-ce que c'est quelque chose qui vous semble indispensable en tant que créateur, que créatrice. Je pense aux jeunes qui sont aujourd'hui justement en plein étude ou d'ailleurs en train d'expérimenter seul, mais que c'est quelque chose que pour vous il faut encourager, cette expérimentation et le fait de pouvoir le faire effectivement à travers le fanzina, pouvoir tester plein de choses qui permettent après de peut-être mieux savoir qui on est en tant qu'artiste.
Ah oui, complètement, j'encourage vraiment les étudiantes et étudiants à avoir une pratique à côté de l'école, en fait, parce que c'est hyper nourrissant et riche, et ça finit toujours par apporter quelque chose à notre pratique à l'école. Et aussi, c'est des super moments qu'on passe entre potes, on se fait sans trop s'en rendre compte aussi un réseau, et en faisant des petites publications entre amis ou entre personnes de la même classe, finalement, on se crée aussi des vecteurs de publication, on peut montrer son travail. Je pense que au moment de démarcher les éditeurs avec mon projet, mon grand projet, je pense que certains d'entre eux avaient déjà vu mon travail, en fait, de par mes publications dans les fanzines. Et puis surtout, je pense que c'était pour moi une première entrée dans le monde professionnel qui s'est fait par la petite porte et qui s'est fait de façon super super agréable, en fait, même si c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Je trouve que c'était quand même ouais, c'est une façon de se chercher en dehors de l'école et des sujets de cours qui est super intéressante.
Vous parliez tout à l'heure pas du tout, désolée, ça quand c'est pas en direct. Pour revenir à ce grand vide qui nous réunit aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de son origine, de ces notes qu'il pouvait y avoir dans vos carnets concernant la trace qu'on laisse, concernant la mort. On sent dans cet album qu'il y a beaucoup de vous, beaucoup de vos angoisses, et notamment de cette angoisse de se lancer aussi en tant que jeune autrice. Cette question de la trace qu'on va laisser alors même qu'on a une vingtaine d'années, elle est très présente.
Oui, je pense que c'était une réflexion à la fois des angoisses qu'on a quand on est étudiante ou étudiant et qu'on est à l'école, qu'on va arriver à la fin des études, doit se projeter dans un milieu professionnel qu'on sait assez hostile, en fait. Mais en même temps, de par mon passage dans le fanzine, je savais qu'il était aussi très accueillant. Donc c'est un peu une ambivalence qui m'angoissait, en fait. J'avais peur simplement de pas y arriver parce que les revenus, enfin on le sait, les revenus des autrices et auteurs sont très liés à la quantité d'albums qu'ils sont en mesure de vendre, donc c'est lié à un marché industriel, en fait. Et du coup j'avais envie de réfléchir là-dessus. Quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup suivi tout le mouvement des auteurs et autrices pour arriver à sortir de la précarité, et c'est quelque chose qui fait peur. Donc je pense que c'était un peu ça.
Et ça rejoint la question de la notoriété qui est présente dans ce livre, puisque on disparaît quand notre nom cesse d'être lu, d'être prononcé, et ça ramène justement à cette question de la vie professionnelle, puisque en tant qu'autrice, en tant qu'auteur, on existe si on vend des livres.
Oui, et on existe à travers des personnes qui nous lisent, donc à travers le regard des autres et à travers les autres. Et je pense qu'on existe d'ailleurs de notre naissance jusqu'à maintenant, on est vu on existe de toute façon en société aujourd'hui, donc on a ce rapport-là aux autres. Mais en fait, il y a à la fois un rapport de notoriété, donc qui est lié à notre milieu professionnel d'autrice et d'auteur, et en même temps, un rapport à l'image qu'on renvoie de soi. Déjà aussi, pour un artiste, comment est-ce qu'on communique sur notre travail? Donc,
Parce que c'est de plus en plus, justement, aux artistes de communiquer sur leur propre travail.
Voilà, c'est ça. C'est aux artistes d'avoir une forme d'objectivité sur ce qu'on sait faire Et il y avait un peu cette angoisse aussi de se dire que bah, si on n'est pas un bon ou une bonne communicante, on n'arrivera peut-être pas à toucher des gens, à les amener vers notre travail. Donc c'est un peu angoissant aussi. Et oui, en même temps, ouais, peut-être... c'est aussi, je pense, un questionnement de jeune adulte, en fait, qui rentre un peu dans le monde des adultes et qui se dit, en fait, où placer mes idéaux, comment faire des compromis, à la fois dans le monde professionnel, mais à la fois dans ma vie personnelle, entre peut-être cette existence de personnage public que je suis obligée d'avoir dans le monde professionnel et mon intimité.
Ça parle de ces interrogations et du coup, ça parle également de choix. Quel choix on fait ? On a ce personnage qui veut quitter la ville pour aller vers ce grand vide, qui veut quitter la ville et par là même finalement la société. C'est aussi un album beaucoup autour de ça. Bien sûr, des angoisses, mais aussi du fait qu'on peut prendre en main son destin et qu'on est toujours face à des choix. Et il y a des choix qu'on est amené à faire et il y a des choix qu'on peut précisément faire.
Ouais, j'avais envie de réfléchir à aussi sortir... Enfin, cette peur aussi de ne pas exister socialement ou pas exister en tant qu'artiste. Enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui font de l'art pour soi en tant que passion et qui n'ont pas envie ou pas besoin d'avoir ce regard extérieur. Donc, il y avait un peu peut-être une réflexion sur quel est le rôle des autres, en fait, dans notre pratique et nous-mêmes. Et en même temps, ouais, un peu réfléchir à pourquoi est-ce qu'on se force à faire des choses parfois. Est-ce qu'on le fait pour les autres? Est-ce qu'on le fait pour soi? Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié.
Et c'est en cela que, justement, ça dépasse complètement la question de l'artiste. C'est-à-dire que cet album, et c'est ce qui fait aussi... Son succès, c'est que, bien évidemment, que ça parle, comme vous le disiez, à tout le monde et qu'il est question d'une jeune adulte et pas d'une artiste. Donc, même si ça, forcément, ça charrie des angoisses qui sont les vôtres, en tout cas, c'est quelque chose de très universel. On l'entend quand vous en parlez.
Oui, et puis toute cette question autour du choix, je pense que peut-être que c'est quelque chose qui est plus lié à ma génération ou peut-être à mon âge aussi, je sais pas, l'idée, la peur qu'on a de faire des choix définitifs ou alors même, enfin, j'avais envie de réfléchir aussi autour d'une situation que j'ai essayé d'exposer dans mon livre qui est un peu une sorte de malchance. Il y a mon personnage principal qui se retrouve avec ce problème qui lui tombe dessus et en fait c'est du hasard, elle peut en vouloir à personne. Et à quel moment elle a le choix, en fait, à quel moment elle a cette fenêtre de tir pour s'en sortir, à quel moment elle prend en main sa vie, à quel moment elle ne peut pas le faire. Donc j'avais envie d'explorer ça.
Je parlais de la ville que votre personnage veut quitter. Comment est-ce que vous avez imaginé votre ville? Vous avez étudié à Shanghai dans le cadre d'un échange Erasmus. Pour autant, vous ne vouliez pas précisément que cette ville du grand vide soit Shanghai. Vous vouliez vraiment que ce soit une mégapole qui pourrait être Shanghai comme New York, comme tout autre. Comment est-ce que vous l'avez imaginé et comment est-ce que vous l'avez, de manière très concrète, dessiné?
En fait, j'ai d'abord fait une série de dessins un peu préparatoires pour mon histoire. Donc j'avais déjà commencé un premier jet d'histoire. Et à partir de là, au mois d'octobre 2017, j'ai fait une série de dessins, de 31 dessins autour du défi internet qui s'appelle Inktober. Et du coup, tous les jours pendant le mois d'octobre, j'ai fait un dessin par jour autour de mon histoire. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à voir surgir ces ambiances de Shanghai qui étaient restées dans mon imaginaire, mais que je n'avais pas cherché à sortir. Mais peut-être que plus je dessinais autour de mon histoire, et plus mon langage graphique se précisait et s'étoffait, un peu comme si j'écrivais avec des mots. Là, j'écrivais, je dessinais en fait et je construisais petit à petit l'univers graphique de ma ville. Le but pour moi de cette série de dessins, c'était d'explorer en fait cette ville et cet univers et de trouver toujours des nouveaux angles, nouveaux points de vue en fait, qui pourraient enrichir aussi le récit. Donc j'ai un peu essayé tout au long de l'écriture du livre que le dessin et l'histoire se répondent en fait et se nourrissent mutuellement.
Et cette ville finalement avec ces immenses bâtiments, ces bâtiments très très hauts et avec toutes ces enseignes, où on retrouve le nom de personne, mm-hmm. Puisqu'effectivement, on le disait dans le récit, les personnes ont besoin que leur nom soit visible. Finalement, cette ville a une tête de cimetière avec toutes ces enseignes.
Oui, c'est un peu l'effet que ça faisait parfois à Shanghai, où je me sentais assez, parfois assez oppressée par la ville, mais c'était plus une sensation d'écrasement, de se dire qu'on était une minuscule fourmi dans une immense fourmilière et qu'à chaque fois qu'on regardait dans une fenêtre d'immeuble, il y avait quelqu'un qui habite derrière. C'est assez... une ville. C'est assez fascinant, je trouve. Et moi, ça me fait un peu le même effet dans les cimetières. Donc je vois cette étendue de noms qui m'évoquent rien. désolée hein, pour les morts, mais il y a un peu cette fascination de se dire que c'est une liste de noms qui peut-être n'évoque plus rien pour personne sur Terre et qui a cette trace qui reste. Et pourquoi?
Et ces noms précisément qu'on voit dans le grand vide, c'est un grand mélange puisqu'il y a des noms qu'on peut reconnaître, qu'on connaît un tout petit peu le milieu de la bande dessinée. On voit bien qu'il y a des clins d'œil, mais pas uniquement. Il y a aussi des noms que vous avez totalement inventés. Et je crois savoir que vous les avez justement travaillés pour faire en sorte que, je disais, cette ville c'est Shanghai, mais c'est pas Shanghai, ça pourrait être n'importe où ailleurs. Ces noms aussi, vous les avez travaillés pour que ce soit vraiment une ville cosmopolite et que on ne soit précisément pas dans un lieu précis.
Oui, en fait, une fois que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de Shanghai, ou en tout cas d'une mégalopole dans cette ville, et que le fait qu'il y ait autant d'habitants d'un coup ait du sens dans l'histoire, là j'ai essayé, entre-temps je suis allée à New York aussi, et dans quelques villes états-uniennes, et je me suis rendu compte que malgré leur côté international, les mégalopoles ont aussi leur identité, et du coup j'ai essayé de... Enfin, par exemple à Shanghai... Les gratte-ciel ne sont pas du tout aussi denses. Ça, c'est plus quelque chose que je me suis inspirée de New York, de Manhattan. Et donc, j'ai essayé de faire un mélange un peu comme ça. Et j'avais pas envie qu'on puisse aussi se dire « Oh, bah, c'est Paris dans 80 ans ». Et en fait, j'avais envie que juste cette ville n'existe pas et qu'on se dise qu'on est dans une sorte d'énorme mélange. Et je me disais qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait plus de noms francophones que de noms thaïlandais ou de noms brésiliens, voilà.
Et par rapport à ce titre, le grand vide, je vous ai entendu dans un autre entretien évoquer ces cours du lycée, ces cours d'histoire géo, où on évoquait la diagonale du vide. Ce titre, il vient de là ?
Un peu. Je pense que j'ai peut-être nommé cette partie de mon univers qui s'appelle « En dehors de la ville », qui s'appelle « Le grand vide ». Je pense que ça tient de ça, oui. Un peu ces souvenirs que cette partie là géographique, en fait on pourrait appeler toute une partie géographique d'un pays en fonction de sa capacité productive. Je trouvais ça assez fou de mettre un peu ce tampon là-dessus, ce label,
ce critère là voilà, c'est vide, mais c'est plein d'autres choses si c'est vide de
et puis finalement je pense que ce récit il parle beaucoup de productivité, de rapport à la quantité et qu'est-ce qu'on fait de cette quantité là et qu'est-ce qu'elle dit de nous et de ce qu'on cherche. Et du coup, ce rapport-là au vide et au plein, ça avait un sens.
Je le disais tout à l'heure, le jeu de rôle a pu avoir une influence sur l'écriture de cette bande dessinée et la musique. De quelle manière est-ce que ça a accompagné l'écriture du grand vide ?
Alors, j'étais un peu désespérée à ce moment-là. J'étais vraiment coincée dans l'écriture. Et là, quand je suis coincée en général, que je tourne en rond, je me mets à composer de la musique. Du coup, je fais ça sur logiciel, sur mon ordinateur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en composant, j'arrivais à rentrer dans des sortes d'états, peut-être pas de transe, mais d'émotions qui étaient plus facilement véhiculées par la musique que par les scènes que j'avais du mal à écrire. Et du coup, à partir de là, je me suis mise à écrire beaucoup plus en musique. Et c'est vrai que dans la musique, il y a une forme de théorie de l'émotion, ou en tout cas du rythme, clairement, et qui fait que je comprenais beaucoup mieux, en fait, que dans une histoire où je découvrais tout au niveau du rythme. Là, comparé à la construction d'un morceau de musique avec introduction, couplet, pont, refrain, là, c'était beaucoup plus clair pour moi. Et puis cette histoire de jeu de rôle, en fait, je n'y joue pas du tout. Mais j'avais besoin de comprendre comment est-ce que... Enfin, c'était un moment dans mon récit où j'arrivais pas à créer du suspense. En fait, mon histoire était très monotone, mais vers le haut, c'est-à-dire que c'était toujours extrêmement drôle. Enfin non, je me vante pas. C'était juste un enchaînement de gags et en fait, du coup, il n'y avait aucun rythme. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit, ah, mais comment je vais faire pour créer une intrigue, créer du suspense, comment on fait? Et du coup, je suis allée voir sur des forums de jeux de rôle des conseils donnés aux meneurs de jeu pour créer du suspense en direct. Et ça, en fait, c'est quelque chose de très codifié. C'est qu'on prend une histoire, on sait vers où ça va. Moi, je savais, je connaissais la fin dès le début, en fait, de mon histoire. Mais je ne savais pas comment y amener le lecteur ou la lectrice. Et du coup, il fallait que je comprenne comment est-ce que tout d'un coup, on crée de l'action, on crée une coupure pour après mieux revenir au sujet principal en ayant fait vivre d'autres aventures aux personnages qui les font évoluer aussi. Donc voilà, j'ai trouvé des exemples super intéressants de comment briser en fait le rythme du récit pour perdre un peu le lecteur et qu'il oublie qu'à un moment, en fait, il avait certaines attentes. C'était aussi beaucoup jouer sur les attentes du lectorat pour l'emmener où moi je voulais.
Et comment est-ce que, tout à l'heure on parlait de la création de la ville, comment est-ce que vous avez créé votre personnage, Manel Naher? C'est vrai que c'est un personnage qui est graphiquement à la frontière de plein d'influences. Mm-hmm. C'est aussi un personnage qui se tord volontiers, mm-hmm. ou en tout cas un personnage qui ne répond pas, j'allais dire, au canon esthétique d'un dessin réaliste. Mm-hmm. Et c'est quelque chose... je pense que c'est important de le dire, mais vous avez beaucoup suivi de cours de modèles vivants. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qu'on n'appréhende pas forcément facilement, mais on peut se permettre justement de jouer avec ces anatomies quand on les maîtrise parfaitement. Et si vous pouvez continuer à nous faire croire à ce personnage et faire en sorte que ça véhicule énormément d'énergie et qu'il existe totalement, puisque mm-hmm. ce personnage existe dans cet album, c'est justement parce que derrière il y a une maîtrise totale des anatomies classiques.
Merci. Non, en fait, c'était quand j'étais à l'école Estienne, on avait l'immense luxe d'avoir un cours de modèle vivant tous les jeudis. Et je me suis plutôt liée d'amitié avec le professeur de cours de nu, Olivier Thévin, qui invitait énormément, qui avait un réseau de modèles vraiment hallucinant, qui faisait venir énormément de modèles, qui avait énormément d'idées. Et en fait, je me poussais à y aller régulièrement et j'avais peur en fait de finir par tourner en rond. Mais finalement, une fois que j'ai dépassé un peu cette volonté de justesse et d'anatomie, je suis allée chercher plus dans essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'essence d'un corps, qu'est-ce qui fait l'essence d'une pose, à quel moment on reconnaît quand même la pose, même si le bonhomme ressemble à une grosse patate. Et j'ai essayé de déformer un peu les corps pour leur donner de l'expressivité et aller chercher quelque chose qui m'intéressait.
Et c'est ça qui est fou dans le dessin et qui est passionnant, c'est qu'en fait on est beaucoup plus proche de la réalité mmh. avec un dessin qui ne l'est pas, parce mmh. qu'on est justement dans cette énergie, dans cette émotion-là, d'être dans ce qu'un corps dégage plutôt que dans ce qu'un corps est d'une manière très pragmatique.
Oui, et puis à force de dessiner aussi, de faire de la bande dessinée d'imagination, je me suis rendu compte que avoir un imaginaire, c'est quelque chose qui se développe, qui s'entretient et qui se construit. Et assez souvent, en fait, quand j'arrivais pas à trouver une pose juste ou qui me satisfasse dès le premier jet, c'est que souvent, en fait, j'avais besoin de revenir au dessin d'observation. Et en fait, c'est un peu comme si je m'entraînais, en fait. C'est comme si je faisais du vélo ou du ski, bref. C'est une façon de s'entraîner, de muscler un peu son imagination pour pouvoir après revenir avec plein un catalogue assez varié d'images mentales qui nous servent après tous les jours dans le dessin. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de garder aussi dans ma pratique du dessin.
Et vous avez choisi de faire cet album totalement traditionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un album que vous avez réalisé sur tablette. Déjà, pourquoi ce choix, puisque je crois que vous dessinez également sur tablette. Et ensuite, un mot peut-être, puisque ça me semble quand même un peu lié, de la couleur avec ce violet foncé qui à la fois a quelque chose d'extrêmement fort, qui permet par rapport à du noir d'être dans quelque chose d'un peu moins dur. Comment est-ce que se sont faits tous ces choix graphiques, à la fois de la technique, puis de la couleur?
Alors la technique, moi je m'étais mis à l'encre de Chine il y a longtemps, justement pour Inktober. Avant je dessinais beaucoup au stylo ou au feutre, et l'encre ça me permettait d'avoir l'air un peu plus pro, ou en tout cas que ça ait l'air d'être moins brouillonné, enfin vite fait dans un carnet, mais enfin en tout cas c'était le complexe que j'avais à l'époque. Et je pense qu'en fait, notre dessin, il change en fonction de notre outil. Clairement, si je me mettais tout d'un coup à dessiner sur tablette, mon dessin, il n'aurait pas la même tête. On reconnaîtrait sans doute que c'est moi, mais ce serait différent. Et du coup, je crois que je suis restée au papier, tout simplement parce que j'aime beaucoup dessiner sur papier. Il y a un peu ce côté où on a toutes et tous commencé, pour la plupart, sur du papier. Et c'est quelque chose que j'aime toujours énormément. Et aussi, le numérique, j'ai toujours peur de m'embrouiller et de partir dans des zooms interminables et dessiner une tête personnalisée à chaque personne, de chaque foule. Et ça me fait peur, en fait, de perdre du temps ou de perdre un peu la notion du format auquel je suis hyper habituée sur du papier. Je pense que c'est surtout une question d'habitude, en fait. Et j'avais déjà pas mal exploré le dessin à l'encre de Chine, à la plume, et j'avais pas forcément envie de changer à ce moment-là. Et c'est comme ça que je me suis mise à naturellement dessiner à l'encre de Chine, du coup, pour les planches. Et après, la mise en couleur, en fait, moi, je suis pas très habituée de la couleur parce que j'ai beaucoup publié dans le fanzine, et dans le fanzine, on n'a pas trop de sous. Et du coup, on imprime en noir et blanc à la photocopieuse. Et du coup, ça fait qu'on est souvent amené à dessiner en noir et blanc. Et après, enfin, c'est que récemment que je me suis un peu souvenue que finalement, en ayant lu autant de mangas quand j'étais ado, j'avais déjà beaucoup ce contact, enfin ce lien avec le noir et blanc auquel je suis hyper attachée. J'ai aussi un peu commencé à lire de la BD indé à l'association, donc c'est La vie secrète des jeunes, L'ascension du Homal ou Persepolis, toutes des BD qui sont en noir et blanc, et c'est quelque chose auquel je suis très attachée, mais peut-être que par complexe peut-être. Je me suis dit, oh là là, la première BD sérieuse, il faut qu'elle soit en couleur. Mais j'avais pas envie à la fois de devoir tout découvrir d'un coup et faire un travail de défrichage à la fois sur des techniques d'écriture et sur la colorisation pour 200 pages, parce que j'ai assez vite senti que ça allait être un truc interminable. Et du coup, j'ai essayé de trouver une astuce. Donc c'est au final de la trichromie. Donc il y a du violet, du rouge et du bleu, qui se mélange du coup le rouge et le bleu pour donner d'autres teintes. Et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en risographie. Donc c'est une technique d'impression qu'on utilise dans le fanzine, qui coûte moins cher que de faire du coup ce qu'on appelle de l'offset, qui est une technique d'impression à beaucoup plus grande échelle. Donc pour plein de raisons de coût, en fait, je me suis mis à faire de la bichromie ou de la trichromie. Et c'est quelque chose que j'aime toujours faire. Et c'est vrai que finalement,
ça donne une identité particulière à l'album, qui fait qu'on reconnaît effectivement immédiatement. Enfin, il y a quelque chose qui contribue de sa singularité. Mmh.
Et puis en fait, c'était une technique aussi un peu flemmarde pour donner l'impression que c'était en couleur, alors que pas du tout. Et à un moment, on s'est demandé avec mon éditeur, avec 2024, si on allait repasser en noir plus le rouge et le bleu, donc le noir pour le trait. Mais finalement, après coup, ça a donné un côté peut-être un peu dur à l'histoire, alors qu'à la base, j'avais peur que le violet, qui est une teinte qu'on a eu du mal à trouver plus sombre que celle qu'on a utilisée dans le livre, j'avais peur que ça donne un côté trop doux à cette histoire, qui est un peu dure, mais ouais, finalement, c'est plutôt bienvenu.
C'est un équilibre. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure La vie secrète des jeunes de Riyad Satouf, L'ascension du Homal de David Bay ou Persepolis de Marjane Satrapi. Je vous ai entendu dire que beaucoup plus que le cinéma, que d'autres formes d'art, c'est vraiment la bande dessinée qui vous accompagne et qui vous influence aussi en tant qu'artiste. C'est pas forcément toutes les autrices ou tous les auteurs de bande dessinée qui lisent beaucoup de bande dessinée, mais pour vous c'est quelque chose d'important de continuer de toujours lire vos contemporains, et c'est ça aussi qui vous ouvre des nouveaux horizons.
En fait, je lis beaucoup plus de bande dessinée maintenant qu'avant. Là j'ai une période où j'en lisais assez peu, mais là récemment, en plus avec le super fond de la Cité de la Bande Dessinée Angoulême, là je me suis régalée, et c'était super de pouvoir y avoir accès tout en étant en résidence à la Maison des Auteurs Angoulême, et d'écrire en parallèle. En fait, tout simplement, je continuais de lire des bandes dessinées pour comprendre comment elles étaient faites. Je crois que j'ai accédé à une deuxième lecture de mes bandes dessinées préférées parce que j'étais en train d'écrire et du coup, je voyais les ficelles d'écriture et j'ai eu du plaisir à relire des bandes dessinées, à comprendre comment est-ce que enfin, où étaient les ficelles du récit. Puis une fois que j'avais fini de découper, d'écrire l'histoire, je me suis rendu compte que c'était super important aussi pour moi de continuer d'avoir ce lien avec le dessin par la bande dessinée, mais aussi par le cinéma d'animation, pour aussi continuer de puiser dans un langage graphique, cette fois, pour écrire graphiquement ma bande dessinée. Il y a eu plusieurs fois où, tout en dessinant un passage, je me retrouvais aussi bloquée dans la façon de représenter certaines scènes, même si je les avais déjà découpées en storyboard. En fait, j'avais envie de pousser plus loin le dessin et qu'il représente vraiment l'état d'esprit de mon personnage à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu comprendre en lisant d'autres livres, d'autres artistes, et en piochant aussi dans leur langage graphique à eux.
Vous parliez du storyboard. J'ai cru comprendre que vous relisiez beaucoup, beaucoup. C'est important pour vous de toujours revenir à ce que vous avez fait pour, finalement, j'imagine, se dire que la version finale, c'est vraiment celle à laquelle vous aviez envie d'accéder.
Oui, et puis il y avait ce côté un peu magique et effrayant au moment de faire le storyboard où je voyais l'histoire tout d'un coup exister sous mes yeux, même si c'était les premiers essais. Et ça, c'est quelque chose que du coup je relie énormément à ce que je fais parce que j'ai besoin de l'activer en fait d'une certaine façon, de comprendre, de régler le moindre détail. Enfin, c'est un peu un truc de contrôle fric. Mais vraiment, j'avais besoin d'essayer de me projeter à la place de mon lectorat pour être sûre de bien transmettre ce que je voulais transmettre. Et du coup, ouais, j'ai fait beaucoup ça. Puis j'ai un peu toujours cette peur de me dire que parce que je rentre dans un délire de dessin ou d'histoire, je me mets à écrire quelque chose que j'aurais pas aimé lire. Alors j'essaye d'être assez attentive, d'avoir un peu ce double statut quand j'écris, d'essayer de me projeter le plus possible à la fois à ma place d'autrice et à ma place de lectrice. Et j'avais aussi besoin, du coup j'ai eu très peu de mes amis qui ont relu l'histoire en cours de route. J'avais besoin qu'il y ait certaines personnes qui me connaissent très intimement ou qui connaissent mon travail que j'avais fait avant pour être sûre que j'avais un peu cette sincérité que j'avais dans les fanzines et que j'avais envie de garder et qui est peut-être plus dur à conserver intact quand on fait un projet si long et avec autant de travail de réécriture.
Je le disais, ce premier album a rencontré un grand succès. Il a été en rupture de stock assez rapidement. Enfin, fin novembre, on a enfin pu à nouveau
aujourd'hui
le trouver en librairie. Comment est-ce qu'on appréhende, peut-être que c'est un peu trop tôt pour poser la question, mais comment est-ce qu'on appréhende la suite quand son premier album a aussi bien, a autant plu, que ce soit aux lecteurs ou aux critiques de bande dessinée? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes en pensant à la suite?
Oula. Non, en fait, déjà, les toutes premières fois où des gens que je connaissais pas l'ont lu, j'ai bugué. En fait, j'étais très impressionnée et je me suis dit, ah ouais, en fait, il va sortir de moi, il va exister chez d'autres personnes et d'autres personnes que je connais pas du tout vont le lire et y avoir accès. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Et puis ce succès a aussi entraîné beaucoup, beaucoup d'interviews, de moments où j'ai dû me sortir de mon rôle, de mon premier rôle, enfin, de mon rôle à la première personne pour en parler de mon travail à la troisième personne. Ça, c'était hyper difficile les premières fois. Et il faut un peu retracer toutes les étapes de l'écriture. Et souvent, en fait, quand on termine un livre, on a encore des sortes de souvenirs qui résiduels des versions qu'on n'a pas conservées du récit, mais qui font partie à part entière du récit parce que c'était des potentialités hyper fortes. Et du coup, c'est un peu le moment où on va devoir se défendre, en fait, communiquer sur son travail et sortir de soi. Et ça.
Ça va, vous n'avez pas trop à vous en faire pour votre présence.
Ouf, tout va bien. Mais oui, du coup, c'est très impressionnant parce que moi, j'ai écrit cette bande dessinée un peu planquée en me souciant pas du tout de. Enfin, quand même un peu de qui allait la lire, mais...
Et puis, il y a eu le confinement qui est passé par là, en plus.
Ouais, où là, j'étais quand même assez isolée pendant le confinement, mais finalement, c'est un peu le quotidien des autrices auteurs de BD, l'isolement. Donc, voilà, c'est tout d'un coup sortir de son quotidien un peu solitaire. C'est assez impressionnant. Puis là, j'ai un peu peur... Bah oui, forcément, je me dis, ah, bah... Qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que les gens vont me suivre? Enfin, en fait, ça crée des questions que je ne me suis pas trop posées avant de me dire que j'allais faire d'autres livres. Et je pense qu'évidemment, j'envisageais ça, mais tout d'un coup, ça devient très palpable. Alors là, c'est assez impressionnant. Puis là, comme je fais beaucoup de dédicaces, à chaque fois, la question, c'est « Ah, vous travaillez sur la suite, sur un nouveau livre ?» Et c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu l'angoisse. Mais bon,
vous allez feuilleter les carnets.
Voilà, d'ailleurs. C'est ça. Après, j'ai toujours des idées d'histoire. Là, j'ai une idée que j'ai envie de développer. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que j'ai fait un premier album qui a rencontré son public. Et ça, j'ai énormément de chance et je suis hyper reconnaissante. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir continuer de faire des livres. Et puis, j'ai la chance aussi d'être une autrice qui a aussi encore des idées d'histoire à coller à ses dessins. Et du coup, je ne suis pas à court d'idées, mais plus peut-être à court de temps ou d'énergie ou même de motivation parfois. Parce que maintenant que je recommence à zéro, je pense que beaucoup de gens pensent, peut-être parce qu'ils ou elles connaissent pas trop les coulisses, mais qu'une bande dessinée, en fait, on a l'histoire dès le début, on a déjà un peu toute la bande dessinée en tête avant de la dessiner, et en fait, pas du tout. Et j'ai l'impression que maintenant que j'ai terminé ce livre, je rentre un peu dans cette logique où je me dis « Ah, mais ce livre, Le Grand Vide, c'était si évident, alors que quand je reprends mes notes, je réalise qu'en fait, j'ai tellement galéré dans l'écriture que ça me rassure un peu de me dire que là, je me remets à galérer comme tout le monde. » Mais voilà, c'est... En tout cas, se relancer dans un nouveau projet, c'est hyper excitant, et d'autant plus s'il y a un public derrière qui attend.
Et vous le disiez, c'est un métier solitaire, le métier d'autrice, d'auteur de bande dessinée. Vous partagez un atelier avec des dessinatrices de bande dessinée. Je crois qu'il y a des architectes aussi dans votre atelier. C'est quelque chose qui est important pour vous de pouvoir être entourée, même si forcément dans la création même, vous êtes seule face à votre feuille, à vos carnets. Mais c'est quelque chose qui est important, cette notion de collectif qu'on retrouve aussi dans le fanzina.
Oui. Alors clairement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le fanzine, de se sentir entourée, soutenue. En fait, tout simplement, ça donne de l'énergie parce que, comme tout le monde, même les gens qui font pas de la BD, on a des hauts et des bas. Et c'est surtout que dans des périodes d'écriture, pour un artiste, on est tellement dans sa tête et tellement souvent connecté à ses émotions que les périodes un peu de déprime prennent un peu toute la place. Donc ça, c'est super de pouvoir sortir la tête de soi quand on est dans un atelier. Et d'autant plus si on est entouré d'autres personnes qui font de la bande dessinée. Ça, je l'ai remarqué quand j'étais à la Maison des auteurs à Angoulême, parce que en fait, je me suis rendu compte que en sortant de l'école, en fait, on est un peu lâché dans la nature la plupart du temps, souvent parce qu'on doit prendre des boulots alimentaires pour pouvoir avancer de l'argent pour pouvoir sortir un premier livre. Mais du coup, on se retrouve assez isolé, et c'est super d'avoir cette connexion avec d'autres gens qui font exactement la même chose que soi, en tout cas qui sont dans le même domaine. Comme ça, on s'aide pour les contrats, on s'aide pour les cotisations, l'URSSAF, c'est important. Et voilà, en fait, on s'aide et on se donne beaucoup d'énergie, et ça, c'est hyper important. En plus, dans mon atelier, du coup, je suis en atelier avec Lucie Albrecht et Chloé Wary, et avant avec une autrice qui s'appelle Maud Bénézit. Et toutes les quatre, on a à peu près le même âge, et on est dans les mêmes problématiques d'écriture aussi. Et donc, c'est hyper chouette, hyper précieux d'avoir ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.